Cube Radio.
Silence! Veuillez vous lever. La cour, présidée par l'honorable François-David Bernier, est déclarée ouverte.
Entrez dans les coulisses de la justice. Écoutez, vous serez pas jugé.
Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier.
Avec François-David Bernier.
Avocat à la barre.
Cube Radio.
Bon début de journée. Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, on répond à vos questions, les questions du public que vous nous avez posées sur notre ligne 187 Cube Radio. Très intéressant. Restez là jusqu'à la fin. On parle beaucoup à Maître Boily parce qu'on revient avec la loi sur la faillite. On voit des entreprises qui se mettre sous la protection de la faillite. C'est quoi tout ça? Il y a Maître Sharon Otis, notre chroniqueuse, qui a eu une aventure. Elle a dû se faire tester pour la COVID-19. Elle n'a pas trop aimé l'aventure. Elle nous révèle certaines lacunes du système, dont, à ce qui paraît, ils disent pas aux gens de pas sortir une fois qu'en attente du test. Ça peut être très dommageable. Elle nous expliquera tout ça tout à l'heure. Il y a aussi, on revient avec l'histoire de menaces de mort sur les réseaux sociaux. Qu'en est-il? Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? On va en parler avec Maître Boily. Restez là, votre émission commence maintenant.
Vous écoutez
Avocat à la barre.
On commence à ressentir les dommages collatéraux de la pandémie, du confinement, de la fermeture des entreprises. On a vu cette semaine là, plusieurs entreprises qui se sont mises à l'abri de leurs créanciers puisqu'ils ne parvenaient plus là, à générer des revenus suffisants. On appelle ça la loi sur la faillite qui, souvent on pense que c'est un malheur qui arrive, mais c'est pour se protéger des créanciers. On pense à l'entreprise de Louis Garneau Sport qui a annoncé que ses créanciers. Là, il y aurait une bonne nouvelle de ce côté-là. On parle aussi de Dynamite, je crois. On en parle avec Maître Boily.
Oui, bien, c'est ça. Il y en a plusieurs là, qui sont placés sous la protection de la loi. Vous parliez de Dynamite. Puis il y a aussi le groupe Ernest, là, qui est là depuis quand même longtemps. Là, c'est un fils d'immigrant, là, M. Ernest Herrera, qui avait fondé ça.
C'est pas une bonne nouvelle pour moi. J'achète mes vestons, là.
Ben oui, Ernest. C'est ça. Mais là, ils ont plusieurs millions de dollars de dettes. Puis là, ben, les loyers, puis tout ça. Ben alors, évidemment, vous l'avez dit, la pandémie, ça n'a pas aidé ces groupes-là. On parle de Dynamite cette semaine, là, qui, eux autres, ben, ils ont entre autres les magasins garage. C'est très, très populaire. Moi, je sais que mes enfants allaient là souvent. Et puis, d'autres chaînes. C'est tout un peu la même chose. C'est-à-dire que ces gens-là se mettent la protection de la loi pour pouvoir respirer, parce que là, on doit beaucoup d'argent des créanciers, puis on n'est pas capable, on n'a pas de revenus, il y a moins en moins de revenus, les gens vont moins en moins dans les centres d'achat. Pendant la pandémie, on n'y allait pas, c'était fermé.
Ouais. Alors, avant la pandémie, ceux qui avaient des locaux, ça devenait de plus en plus dur.
Plus lourd,
de plus en plus web, lourd. Le web, puis même Monsieur Simon, là, des magasins Simon, qui était sorti en disant, c'est beaucoup plus dur maintenant.
Effectivement, mais vous avez le groupe Louis Garneau, Sport, puis que l'autre entreprise également, ces gars qui sont mis sur la protection de la loi avant la COVID parce qu'il y avait des problèmes financiers importants. On parlait de suivant les sources, là, des créanciers non garantis pour au-delà de 15 millions. Et puis des créanciers garantis, des banques et tout ça. Bon, Louis Garneau, qui est quand même un homme d'affaires bien connu dans la région de Québec, puis au Québec, même au Canada, restructurer son entreprise, faire ce qu'on appelle une proposition.
Alors, expliquez donc là, comment ça fonctionne. Les gens, habituellement, voient la faillite comme si c'était une menace qui tombait sur eux. Mais c'est souvent la personne qui a de la difficulté qui demande la protection. Oui. Alors, parce que ça ne veut pas dire qu'il y a une faillite quand on se met sous la protection. Non. Il peut y avoir une proposition, on peut s'entendre.
C'est ce qui est arrivé dans le cas de Louis Garneau Sport et l'autre entreprise. Donc, on a fait une proposition aux créanciers qui, semble-t-il, a été acceptée cette semaine et qui devrait être entérinée par la Cour. Parce que même si les créanciers l'acceptent, il faut que la Cour supérieure qui chapeaute ces dossiers-là, donc il faut qu'un juge ou une juge de la Cour supérieure vienne entériner, parce que c'est le syndic qui fait une proposition aux créanciers, et cette proposition-là doit être entérinée par un juge de la Cour supérieure. Donc, faut s'assurer que c'est au bénéfice de tout le monde.
Et les créanciers, c'est sûr à qui l'entreprise doit de l'argent. Ouais. Et pourquoi le juge faut qu'il l'approuve, ben, si eux, parce que c'est eux les principales concernés.
Oui, mais il faut que ça ait du sens, parce qu'il y a les employés également là-dedans. On dit dans, je vais vous donner un exemple, un ordre de grandeur. Dans cette proposition-là, qui est acceptée par les créanciers, je vous rappelle, qui doit être un pourcentage important dans un cas de proposition comme ça. Donc, c'est plus de 50 % des créanciers qui ont accepté, même 70 dans ce cas-là. Et on parle de 550 000 $ pour 15,4 millions de dettes. Alors, on parle en bas de 10 %. Mais vous savez, dans un cas de faillite...
Quand on entend 10 cents dans la pièce.
C'est à peu près ça. C'est ça. Ouais. Moins que ça. On parle en bas de 5 sous. Sauf que c'est quoi? Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Alors, si c'est une faillite complète, généralement, il reste rien, ou à peu près. On le dit tout le temps. Dans le cas, je me souviens d'un vieux juge qui nous avait dit à Trois-Rivières, on était 7 ou 8 avocats autour d'une table, puis un des avocats avait dit, « Monsieur le juge, la masse des créanciers, oubliez pas la masse des créanciers. » Le juge avait répondu avec raison, regardant les avocats, « Vous savez-vous ce que j'en pense de la masse des créanciers? Une fois que les comptables, les avocats et tous les professionnels ont passé, il reste plus rien. » Alors, c'est un peu ça, la faillite. C'est ouais. Pas toujours le cas. Mais dans ce cas-ci, on parle d'un montant dû à des employés au-dessus de 170 000 qui devront être remboursés à même ces montants-là. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les employés. Et c'est une bonne nouvelle aussi pour l'entreprise parce que ça va permettre ça. Ça veut dire que les créanciers ont confiance à la reprise, ont confiance évidemment à l'administrateur qui est là et les gens qui sont autour. Donc, ils mettent une croix sur leur dette. Ils vont recevoir un sac de peanuts puis une boîte de Cracker Jack. C'est pas grave parce que ça va reprendre. Ils vont pouvoir continuer à fournir. Mais évidemment, c'est plate pour certaines entreprises qui doivent mettre une mauvaise créance là-dessus. C'est ce qu'on appelle en matière comptable. Donc, ils font une perte, mais à ce moment-là, ils se reprennent ailleurs. Des fois, il y a des fournisseurs qui décident de ne plus fournir ces entreprises-là parce qu'ils disent, ben là, j'ai pas confiance, tu me fous une fois, tu me pourras pas deux fois.
Parce que c'est pas des petites pertes.
Non, c'est des bons montants, mais il reste que souvent, là, par exemple, on dit qu'Investissement Québec, qui est le bras financier de la province, en fait, il fait partie aussi de la liste des créanciers garantis. Alors lui, avec ça, il peut s'assurer qu'il va pouvoir récupérer une bonne partie de son investissement en ayant après ça recréé des emplois. Vous savez, l'économie, ça marche comme ça. Souvent, on le dit, là, on voit avec la COVID, là, M. Trudeau qui lance des millions et des milliards, etc. Mais c'est de l'argent qui reste dans l'économie. Alors, les macroéconomistes pourraient vous expliquer tout ça mieux que moi.
Ouais.
Il reste que c'est de l'argent qui est réinvesti dans la société. Donc, dans un cas de faillite comme ça, ben c'est pas une faillite à proprement dit. C'est que les gestionnaires font une proposition aux créanciers, puis ils disent aux créanciers, écoutez, nous autres, on est prêts à faire une reprise, et je vous dis, bon, ça s'est fait dans le cas de Louis Garneau Sport, est-ce que ça va se faire dans les cas des autres entreprises, je ne le sais pas, parce qu'il est encore trop tôt pour se le dire, mais il reste que, lorsqu'on se place à l'abri des créanciers, il y a des délais qui sont prévus. Dans le cas de Louis Garneau Sport, par exemple, là, il y a eu la COVID, qui, vous savez, les délais de cours ont tous été suspendus depuis le 12 mars, donc jusqu'au 1er septembre, aucun délai ne court. Mais normalement, dans un cas normal, vous avez 45 jours lorsque vous vous placez sous la protection de la loi, pour dire qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous faire une proposition à vos créanciers? Allez-vous faire faillite? Et ça, généralement, dans à peu près la totalité des cas, ces délais-là sont repoussés parce que le délai, généralement, n'est pas suffisant. Mais on a mis un délai assez court pour que les gens bougent, pour pas que ce soit... Parce que lorsque vous êtes sous la protection de la loi, vous savez, M. Bernier, il n'y a pas de procédure que vous pouvez prendre pour récupérer vos biens. Alors, les créanciers garantis, les banques, par exemple, qui ont une hypothèque sur un immeuble ou votre voiture qui était donnée en garantie à la Caisse populaire, ils peuvent reprendre leurs biens à ce moment-là avec l'autorisation du syndic. Mais les créanciers qui n'ont pas de garantie, généralement, la seule chose qu'on peut faire lorsqu'un montant nous est dû, c'est bon, d'envoyer une mise en demeure par avocat et après ça, d'obtenir un jugement pour avoir une saisie contre les biens de l'entreprise.
Mais parce que c'est ça, tu as les prioritaires, ouais. Tu as les garanties prioritaires. C'est quoi la différence entre prioritaires et garanties?
Bon, les garanties, ce sont ceux qui détiennent des garanties légales, donc hypothèque, on dit immobilière ou immobilière et des choses comme ça. Les prioritaires sont, par exemple, les dettes qui sont dues des fois pour les employés, les dettes qui sont dues pour des services médicaux,
des taxes,
des choses comme ça, les taxes municipales prioritaires.
Ça veut dire prioritaire...
Ils passent avant les autres créanciers.
On les paye, ouais, ça finit là.
C'est ça.
Après ça, quand ils sont garantis, il y a ce fameux ordre de colocation.
Exactement.
Qu'on appelle...
Savoir qui a enregistré le premier sur un bien. Alors, ouais. Si c'est une première ou une deuxième hypothèque, par exemple, sur votre immeuble, ben, c'est la première hypothèque qui se fait payer en premier et le deuxième deuxième subséquent s'il reste de l'argent. Vous avez, par exemple, un bien qui vaut, il y a une valeur de 400 000 $ et vous avez 600 000 d'hypothèque dessus, ben, il reste fort probable que le deux ou troisième garantie, il restera rien. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne, par rang d'enregistrement qu'on appelle. Alors, le premier qui est enregistré est le premier qui se fait payer et on descend comme ça. Alors, en matière de faillite et de proposition, ben, c'est différent parce que les créanciers garantis vont se payer à même leur garantie, hein, c'est ça que ça dit. Ouais. Mais si t'es un créancier garanti, par exemple, de deux ou troisième rang sur un immeuble, ben, tu vas avoir un ordre de colocation qu'on appelle. Donc, ça se peut que tu vas évaluer ta garantie puis dire, ben, moi, ma garantie est pas suffisante. Donc, je réclame à la faillite également un montant comme créancier ordinaire. Parce que je ne serai pas payé sur ma garantie. Là, il y a des jeux de coulisses qui se font, mais il reste qu'en matière de faillite, c'est très rare que les créanciers ordinaires réussissent à avoir un montant d'argent. Ce n'est que pour le vote, des fois, il y a des jeux de coulisses qui se font pour contrôler, par exemple, puis ça, il y a des jeux qui se font au niveau des bureaux de syndic, mais vous savez, des fois, des grosses entreprises en faillite, c'est payant pour une société qui fait de l'insolvabilité, le syndic, donc ils se payent à même les biens. C'est pour ça qu'on dit qu'une fois que les professionnels ont passé, il n'en reste plus. Pourquoi? Parce que ben il y a un paquet d'experts qui vont venir analyser les choses, et puis ben il faut qu'ils se payent. Alors, ils se payent à même les biens de l'entreprise, et ce sont les premiers créanciers qui sont payés, parce que eux, ils sont postérieur à la proposition et à la faillite. Et à ce moment-là, ben, ça reste généralement peu de miettes aux
parce
autres
parce que
financiers.
La faillite, c'est fort. Ça enlève toutes les dettes. À la date que la personne fait faillite, il n'y a plus une dette qui va tenir.
C'est ça.
Qui était là avant. Mais il y a des exceptions, par exemple. Quelqu'un, je pense, qui a des prêts bourses.
Oui, qui doit les rembourser. Il y a des exceptions.
Les
peines pénales, par exemple. Tout ce qui s'appelle pénal et criminel, ça ne s'efface pas par la faillite. Les pensions alimentaires également.
Alors,
toutes les sommes alimentaires qui sont dues.
Si quelqu'un doit des taxes, je pense.
Oui, exact.
Aussi.
Les taxes municipales. C'est la même chose.
Ou des DAS, déductions à la source
également. Alors, tu as plusieurs exceptions qui sont prévues dans la loi, ce qui fait que tu peux pas faire une faillite pour n'importe quoi. Généralement, les faillites dites commerciales, c'est parce qu'on doit beaucoup d'argent à des fournisseurs, généralement, c'est pas garanti. Des faillites personnelles, il y a des gens qui font des faillites personnelles. Des fois, c'est des faillites de consommateurs qu'on appelle. Donc, ça, c'est des montants en bas de 250 000 $. Mm-hmm. Et les gens qui font ces faillites-là, ben, il y a un mécanisme qui est prévu par la loi qui est beaucoup plus léger que la faillite ordinaire d'une entreprise. On n'entrera pas là-dedans, on l'expliquera peut-être une autre fois, mais il est possible de le faire également pour des gens qui, par exemple, au niveau de la COVID, il y a bien des gens qui ont perdu des revenus importants, puis les dépenses restent là, la maison, l'auto, les enfants, etc.
Ce sera pas facile, je pense.
Plusieurs qui vont peut-être devoir passer par là, malheureusement.
Cet été, il y avait le plus bas taux de faillite. Ouais. Imagine, Mme Boilly, imaginez. Ouais. Et
PCU, il y est pour quelque chose.
PCU, les subventions salariales et le 40 000 $ d'aide aux entreprises qui étaient là. Donc, c'est ce qui fait peur un peu à savoir qu'est-ce qui va arriver dans six mois pas. Quand tout ça sera plus là, même qu'une entreprise s'est servie du 40 000 $ pour survivre. Donc, à suivre. Mais c'est un mécanisme qui est là. C'est pour protéger, malgré ce qu'on croit, des gens qui sont allés trop loin.
Ben, ça va peut-être donner des
J'espère qu'Ernest, parce que pour acheter des vestons, c'est une bonne place. J'espère qu'ils vont survivre. Merci, Mme Boilly.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
Avec François-David Bernier. Avec les grippes qui recommencent, avec toute la situation que vous connaissez de la COVID-19, on a un petit symptôme ou on a des plus gros symptômes. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? On le sait. Aller se faire tester. Mais c'est pas toujours évident de se faire tester. Et notre chroniqueuse, Maître Sharon Otis, a passé toutes les étapes et on voulait en savoir plus. Comment ça fonctionne? Est-ce que ça se fait bien, se faire tester, attendre le résultat, l'impact sur notre vie de tout ça? Et elle est avec nous. Bonjour, Maître Otis.
Oui, bonjour, Bernier.
Bon, vous avez vécu l'aventure du test COVID. Comment ça s'est passé?
Ah, malheureusement, je trouve qu'on fait pitié à titre de soins de santé au Québec. J'en ai pas le choix de dire autre chose que ça. Là, regardez, j'ai commencé à avoir des symptômes samedi dernier, dimanche, là, la fièvre, etc. J'avais tous les symptômes à l'exception de la perte de l'odorat, mais qu'on me dit que c'était un symptôme secondaire. Donc, j'ai appelé ma clinique et le mardi matin, j'avais mon test pour la COVID, et on m'a appelé seulement que jeudi en après-midi pour me dire que j'étais testée négative.
Okay.
Cependant, lorsqu'on m'a parlé à l'effet que j'étais, et j'étais très surprise parce que honnêtement, là, j'ai déjà eu des pneumonies, on a tous déjà eu nos propres bobos, là. Et je peux vous dire une chose, c'est que j'étais dans ma tête, j'aurais gagé quasiment 1 000 $ que je l'avais là. OK? Donc mais ceci étant dit, quand j'ai parlé avec la dame hier, j'ai dit, êtes-vous certaine que je suis négative? Elle dit, regardez, je vais regarder à nouveau. Et elle m'a dit, oui, vous êtes négative, mais elle dit, cependant, elle dit, le test, parce que le test, vous le savez, là, c'est pas soit buccal ou soit nasal, là, c'est les deux. Là. Les deux doivent être faits. Là. Le test n'est pas fait là, juste un ou l'autre. Là. C'est les deux qui vont ensemble. Donc, ce qu'elle m'a dit et ce que je ne savais pas, peut-être que je suis inculte, mais 30%, elle m'a dit que le test était fiable à 70%. C'est-à-dire que 30% des personnes sont peut-être porteuses de la COVID, mais sont asymptomatiques et ils ne peuvent pas le déceler.
Ils ne détectent pas. Il y a 30% de chances qu'il n'y ait pas de détecté si quelqu'un a la COVID.
Exactement. Donc, regardez, et j'ai demandé, parce que moi, comprenez, quand on est avocat, j'avais des ordonnances de sauvegarde. J'avais également un procès en DPJ vendredi. Donc, il y avait environ approximativement 12 personnes, avocats, clients, juges, etc., qui étaient sur place, pour lesquels j'ai dû décaler parce que on m'avait fait une... pas une prescription, mais à tout le moins un bien médical à l'effet que j'étais pas inapte au travail, mais que je ne devais pas me rendre au travail pour, bien évidemment, par respect et par, bien évidemment, pas démontrer l'exemple, mais il faut être, je pense, surtout quand on est avocat, je ne dis pas pour les autres non plus, là, mais
il faut être prudent.
Plus blanc que blanc. Oui, il faut être prudent. Et moi, je n'ai pas d'enfant, mais je suis contente qu'il y a beaucoup de gens que je côtoie qui ont des enfants, etc. Donc, je voulais pas jouer avec la vie des gens. OK? Donc, par prévention, j'ai resté chez moi. OK? Mais le 24-48 heures là, qu'on m'a dit pour lequel j'allais avoir mes résultats, c'est avéré totalement faux. Ça a pris plus que 48 heures. Et j'ai demandé à ce qu'on me confirme que j'étais bel et bien négatif, que j'avais bel et bien des résultats négatifs au COVID-19. Et à l'heure actuelle, on se parle là, présentement le vendredi, là, mais je ne l'ai toujours pas reçu par courriel. Et ça ne touche pas que moi, parce que mon conjoint travaille dans une entreprise disons-le, alimentaire, pour ne pas le nommer, OK? Pour ne pas nommer l'entreprise. Et par prévention, lui, il n'avait pas aucun symptôme, mais par respect, par professionnalisme, est allé lui aussi se faire tester et actuellement a reçu le résultat à l'effet qu'il était que ses résultats étaient négatifs, qu'il n'était pas porteur de la COVID, mais ce, après plusieurs appels et ou presque pas des menaces, là, mais je dirais que...
Mais donc il n'y a pas d'efficacité en ce moment, là.
Okay. Pas du tout.
Puis l'attente, est-ce que l'attente était très longue, comme on a vu dans les médias?
Moi, j'ai passé par une clinique privée qui m'a référé à une autre clinique, là. OK? Ça, c'est une chose, mais mon conjoint est plus pauvre que moi, là, je pense. Et lui, il a attendu à Fleur de Lys pendant 6 heures.
6 heures?
6 heures dans sa voiture, OK? Alors que cet homme-là a fait un AVC et pas en pas top shape, là, mais vous comprenez qu'il y a quand même...
Il est à risque.
Il est à risque. Et à l'heure actuelle, on vient tout juste de savoir qu'il a un résultat négatif, mais ça fait en sorte que nous, on a perdu... Je sais que le système de santé s'en fout, mais on a quand même perdu 2 semaines de salaire chaque.
Non, ça doit... C'est un impact majeur sur une vie parce que vous êtes arrêté. Mais...
Oui, et on était maganés.
Mm-hmm. Parce que là, au final, ce que vous avez, c'est une grippe. Ça veut dire que c'est reparti, la grippe. Là.
Et on n'a pas... je dirais que la docteur qui, notamment, ne sait même pas... vous comprenez, quand nous, on rencontre nos clients à titre d'avocat, on se nomme, on se présente, etc. Cependant, la médecin que j'ai rencontrée pour ma part ne s'est même pas présentée à moi. Je ne savais même pas si c'était l'infirmière et ou la médecin. OK? Alors, je pensais que c'était l'infirmière qui allait me faire le dépistage. Mm-hmm. Alors que c'était la médecin, mais ne m'a pas rappelé pour me dire, ben, regardez, voici, vous avez peut-être autre chose, vous avez peut-être un autre virus ou quoi que ce soit. Non.
Mm-hmm. Okay.
Non. Je suis dans le... ce que je me dis, c'est par respect pour mes collègues, je vais demeurer à la maison.
Non, mais c'est bienvenu, puis on voit que vous êtes prudente, c'est correct. Mais moi, la question, puis surtout, vous l'avez vécu, on sert un peu de ça. Du côté légal, quand vous allez vous faire tester, est-ce qu'on vous dit de ne pas sortir? Est-ce qu'on vous dit de vous mettre en quarantaine en attendant? Est-ce qu'on vous donne des directives?
Rien du tout.
Non?
Rien. Non. Et okay. Je le jure sur mon serment d'office. OK? Je suis sortie de là. Mon conjoint a fait son 6 heures d'auto et, revenant à la maison, on s'est parlé. J'ai dit, toi, est-ce qu'ils t'ont dit qu'on pouvait pas sortir, aller au dépanneur? Parce que, tu sais, même ce matin, on n'avait plus de pain. Mmh. Je veux dire, vous comprenez qu'on n'avait pas anticipé tout ça, là, hein?
Ouais.
Donc, ils nous ont rien dit. Ne nous ont pas dit, regardez, vous devez demeurer à la maison, éviter, OK, d'entrer pas en communication, mais
en contact.
D'être en contact avec d'autres gens, etc. Et rien, ni à moi, ni à mon conjoint. Donc, je suis sortie de là. Oui, ça n'a pas été long de faire le test, OK? Mm-hmm. Mais sauf que l'information, et j'ai trouvé l'information parce que, bien évidemment, je suis avocate, donc on recherche toujours, quelle mm-hmm. est la bonne et l'adéquate information. Et c'est là où est-ce que j'ai vu que je devais demeurer à la maison et être en quarantaine tant et aussi longtemps que le résultat ne m'était pas transmis. Mais cependant, rien, ni à moi, ni à mon conjoint, Aucune information ne nous a été transmise.
Surpris de ça parce qu'on le sait, l'importance de se mettre en quarantaine si on a ce doute-là. Et la part des gens, puis vous avez eu le bon réflexe, mais je trouve ça quand même spécial que comme on dit, trop fort casse pas, de ne pas donner un avis écrit. Hein?
Vous êtes surpris de ça?
Oui. Il devrait y avoir un avis écrit.
Le système de santé québécois fait dur.
Ouais.
Et là, je suis peut-être pas dans la meilleure journée de ma vie, OK, pour vous donner une entrevue, là, mais je vous le dis, là, j'aurais préféré être au Texas ou être aux États-Unis, parce que assurément que j'aurais eu l'heure juste,
mm-hmm.
assurément que j'aurais eu des explications. Ce n'est pas tout le monde qui d'emblée sont au courant des mesures à prendre. Et si moi, il a fallu que j'investigue pour dire, bon, OK, ben maintenant, on est confiné à la maison tant aussi longtemps qu'on n'a pas nos résultats. Et on m'a même pas expliqué. Dans l'éventuel, moi, j'aurais été négative et que mon conjoint aurait été positif.
Non, c'est sûr.
Qu'est-ce qu'on fait?
Oui. Mais Maître Otis, vous soulevez un bon point. Ça, je suis réellement surpris. On retient ça. Il n'a pas d'avis. Je comprends qu'il faut le comprendre, mais ça serait, vu la pandémie, vu le combat qu'on mène, il devrait y avoir cet avis-là. Je sais qu'ils sont débordés. Mais en tout cas, on vous souhaite un bon repos et on se reparlera pour un autre sujet. C'est tout le temps qu'on avait, mais reposez-vous. Puis c'est assez frappant d'entendre ça. Bye bye.
Je serai plus agréable la semaine prochaine.
Il n'y a pas de problème. Merci de nous avoir fait part de votre expérience. Bye bye.
Merci. Passez une belle journée. Au revoir.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
C'est pas facile ces temps-ci être en politique, être sous les projecteurs, parce qu'on le sait, on a vu, on en parle et on en reparle, notre premier ministre François Legault, qui a été menacé de mort, le docteur Arruda également. Donc, il y a tout. Je ne sais pas si c'est plus grave maintenant qu'avant, mais vraiment, il faut en parler. Sur les médias sociaux, il n'y a plus de frein, il y a des menaces. Ces gens-là, on dira ce qu'on veut, mais la police n'a pas le choix de prendre ça au sérieux parce qu'on ne sait jamais qui est en arrière des menaces. On en parle avec Maître Boily. Bonjour.
Oui.
Rebonjour.
On a vu cette semaine, encore une fois, hier, on en a parlé à l'émission brièvement. J'avais parlé de la chronique de Joseph Facal sur les idiocrates. Hein? Ces gens qui pensent que finalement, que la Terre est carrée puis que les mathématiques, ça n'existe pas. Alors, il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, c'est pas la majorité, mais on disait, puis je vous reviens sur l'article de M. Facal cette semaine, puis ça m'avait frappé parce que il parlait d'une étude d'un professeur à Berkeley dans les années 70, là, au milieu des années 70, et il parlait que il avait mis, lui, 5 stades d'idiots, là, puis on les prendra pas toutes, là, mais il disait qu'on sous-estime toujours le nombre d'idiots parce qu'on pense qu'il y en a moins qu'il y en a, mais il y en a quand même beaucoup, puis il y a des gens qui se servent des réseaux sociaux, puis là, c'est le pique-nique. Là. Alors, ils décident de faire des menaces. Vous savez, Maître Bernier, faire une menace, de dire à quelqu'un, on l'a vu là, sur les réseaux sociaux, on va pendre M. Arruda, puis on va. Il y en a-t-il un qui peut tirer une balle à M. Legault? C'est n'importe quoi, je veux dire, c'est épouvantable. Mais vous savez ce que c'est, ces menaces-là? C'est passible d'infractions, des infractions. Pas juste pénal, criminel.
Ben criminel, j'en ai parlé beaucoup. Ouais. C'était cette semaine. J'en ai parlé à TVA. Puis les menaces de mort, là, pour bien comprendre ça, c'est proférer des menaces. Ouais. Proférer des menaces, c'est vraiment de causer des lésions ou la mort. Ce qui fait, puis il y a des règles là-dedans qui dit que t'es pas obligé de vouloir mettre à exécution ta menace.
Non, c'est une menace. C'est une menace.
L'infraction, ils appellent ça la mens rea, l'intention en arrière.
L'élément mental.
C'est l'intention. C'est vraiment de que la personne qui reçoit, que ça peut être pris au sérieux.
Oui, tout à fait.
Et c'est de générer une crainte. C'est ça, les menaces.
La crainte.
Une fois que ça, c'est fait, c'est une menace de mort ou de causer des lésions.
Exact.
Mais il y a des défenses là-dedans.
Ah oui,
tu peux réussir à dire que c'était une blague.
Ben, il y a des gens qui vont faire une défense, par exemple, de blague ou d'aliénation mentale en disant, ben là, je n'ai pas de contrôle de mes mots, etc.
Ouais.
Mais encore, je veux...
Mais c'est pas facile, ces défenses-là. De dire que c'est une blague, c'est difficile. Mais c'est l'élément de vouloir générer une crainte. C'est sûr qu'il y en a qui font des blagues. J'ai vu avec M. Legault, à un moment donné, il y en a un qui dit, ben, on aimerait qu'il y ait une balle perdue. C'est-tu une menace de mort?
Ouais, c'est ça, c'est indirect.
Une menace de mort peut être indirecte. On s'en était déjà parlé. Si je disais, mon chum, fais attention à toi.
Attention à toi, puis.
Je suis dans un groupe criminalisé,
Quand tu pars ta voiture, vérifie tout, là, tu sais, puis. C'est ça.
Ça peut être indirect. Ouais. Mais quand c'est du sarcasme comme ça, est-ce que. Dire, j'aimerais ça qu'il y ait une balle perdue, c'est violent, c'est cabochon, mais je pense pas que ça construirait une messe de mort. Parce qu'il n'y a pas le sérieux, et il n'y a pas. Est-ce que vraiment cette personne-là veut générer une crainte chez la victime?
Exactement, mais comment c'est perçu par la victime aussi? Il y a ça aussi des fois qui peut rentrer en ligne de compte.
Ouais.
Mais dans les faits, on parlait de stupidité, là. Vous savez, l'exemple qui était donné cette semaine, il disait un être stupide, ça crée des problèmes pour les autres sans retirer des bénéfices personnels. Alors, des fois, l'être stupide, lui, là, il dit des choses, puis il s'en rend pas toujours compte, mais il donnait l'exemple cette semaine, il dit, tu sais, le voleur de banque arrive, il rentre d'une banque, puis il monte son fusil, puis il s'en va avec de l'argent, il sait ce qu'il fait, lui-là. Puis il a un but précis, puis il repart avec de l'argent. Bon, c'est illégal, mais au moins, lui, il sait ce qu'il fait. Puis il sait qu'il peut peut-être faire peur à du monde, puis il sait qu'il va voler de l'argent. Mais le stupide, lui, qui fait des menaces comme ça sur les réseaux sociaux, il se rend pas compte de rien, il ne sait même pas ce qu'il fait, il fait juste dire des choses comme ça sans se rendre compte de tous les dommages qu'il peut créer, parce que ça crée des dommage. Écoutez, là, Dr. Arruda, un moment donné, je sais qu'il était sous protection. En tout cas, c'est ce qu'on avait parlé un moment donné. Je sais pas s'il l'est encore. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui, des fois, mettent les menaces à exécution. C'est arrivé. Henry Bain, souvenez-vous, il y a eu un procès encore il y a quelques années. Celui qui a fait l'attentat là, au Métropolis le soir où Mme la première ministre, la première femme qui a été élue première ministre au Québec, Mme Pauline Marois, il aurait pu, évidemment, heureusement, son fusil s'est enrayé. Mais ce gars-là avait fait, semble-t-il, des menaces auparavant. Alors, tu sais jamais... Est-ce que ces gens-là vont mettre ces menaces-là à exécution? Et tu peux pas prendre de chance. Alors, évidemment, j'ai vu également cette semaine le collègue Mathieu Bock-Côté qui écrivait dans le journal. Et tu sais, il parlait de la violence et ce que les gens font des fois, puis sans se rendre compte, puis là, ils prenaient des termes, j'ai vu ça, là, style de vidange, sac à marde, sac à poubelle, etc., là, pourriture, puis name it, là. C'est pas des choses qui sont agréables et puis les gens se rendent pas compte. Et là, je fais le parallèle entre les deux, là, M. Facal et M. Bock-Côté cette semaine. Alors, les idiocrates là, qui pensent qu'eux, ils ont le droit de tout dire puis que ça fait pas mal à personne, ben.
Oui, mais la réalité,
oui.
C'est que tout. Allez voir un fil là, de Facebook.
Ah, oui, c'est pas.
Puis je vais vous dire, il y en a peut-être un qui mérite de se faire accuser au criminel. Puis d'accuser le monde au criminel, c'est compliqué.
Évident. C'est pas évident.
On pourra pas accuser tout le monde.
Non.
Mais sur Internet, il manque de balises. Mais est-ce que le gars qui dit « j'aimerais ça qu'il y ait une balle perdue » devrait avoir le droit? Je comprends qu'il sera pas accusé au criminel.
Non.
Mais on peut-tu mettre un système... Il faudrait des tickets,
des
contraventions. Je le dis souvent, le monde, regarde, c'est comme le stationnement.
Ouais, bon,
si tu sais que tu vas stationner là, tu vas avoir 40$ de contravention, tu le feras pas.
Exact.
Mais peut-être que sur le web, tout n'est pas criminel, évidemment,
non.
Mais il y a beaucoup d'affaires, comme on le dit, violentes, innocentes, cabochons, disant... Tu sais, c'est dégueulasse ce qui est écrit souvent.
Mais
est-ce qu'il y aurait lieu de mettre des contraventions? Mais là, j'entends déjà beaucoup de gens me dire, là, c'est la liberté
d'expression. Effectivement.
Mais là, où la ligne?
Et là, où la ligne? Puis, tu sais, on a parlé souvent des blagues, on a parlé de Mike Ward et compagnie, les autres. Et où la ligne? Mais il y a une question aussi, il y a une question de la finalité de tout ça. Quand tu poses des gestes comme ça, puis qu'on dit, c'est bien beau être idiot, c'est bien beau... pour savoir, je donnais la comparaison un peu boiteuse entre le voleur de banque puis l'autre, l'idiot là, qui dit n'importe quoi, il y a bien beau pas savoir c'est quoi la conséquence, mais il y en a une pareille. Et c'est là que, oui, des fois, on peut dire, bon, c'est un malade ou il a pas toute sa tête ou je sais pas quoi, il avait pris un verre de trop. Mais il reste que c'est les conséquences qui sont en sorte. Je donne l'exemple. Si l'idiot, entre guillemets, là, je parle de la personne qui veut faire, qui veut dire quelque chose de travers, si au lieu de dire quelque chose, il fait quelque chose, puis par exemple, je sais pas, je donne un exemple comme ça, il y a un fusil dans les mains, puis il y a une balle dedans, puis qu'il met quelqu'un en joue, puis qu'il y a une balle dans son fusil, tu sais, je veux dire, puis s'il tire, ben là, il y a une conséquence. Alors, ce que je veux dire, c'est que lorsque ces gens-là font ces menaces-là ou font ces remarques-là, qui sont des remarques, des fois, qui sont plus qu'acerbes, là, c'est vraiment carrément de l'agression, ben, ces gens-là devraient s'attendre à recevoir, à tout le moins, une forte réprimande. Puis c'est sûr que là, comment on contrôle les réseaux sociaux, c'est toute une question qu'on n'est pas en mesure encore de régler. Mais il reste qu'on en parle de plus en plus. Vous avez vu là des avocats que vous avez eu ici, là, je pense que c'est la firme Calex à Montréal, qui a déjà pris une procédure pour contre Facebook et Instagram, si je ne m'abuse, pour voir à ce que ces gens-là se responsabilisent et mettent des moyens de contrôle. Parce que c'est bien beau de dire, non, nous autres, on est juste une corde à linge. Nous autres, on fait juste de servir de corde. C'est le monde qui accroche leur message sur notre corde à linge, puis elle est mondiale, puis elle se promène partout, puis vous mettez ce que vous voulez dessus. Mais un instant, là, il y a des gens, lorsque vous mettez du linge dans votre cour chez vous, vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi dehors. Si vous mettez des sacs de vidange, ça se met à sentir mauvais, vous allez avoir le ministère de l'Environnement sur le dos. Si vous mettez des choses qui sont, par exemple, indécentes, bien, vous allez avoir la police qui va débarquer chez vous. Alors, les réseaux sociaux, ça devrait être la même chose. Ça devrait être de dire, bien, écoutez, oui, vous êtes des outils, oui, mais donnez-vous justement des outils pour contrôler ce que les gens mettent dans vos boîtes à lunch, puis vous assurer que c'est pas juste de la merde qu'il y a là-dedans. Des fois, il y a des bonnes sandwichs, puis on peut goûter à quelque chose de bon avec des bons légumes, des choses comme ça. Alors, si il y a des boîtes à lunch, des fois, qui ont des contenus qui sont de la vidange, qui sont de la merde, excusez-moi l'expression, mais que c'est quelque chose qu'on veut pas avoir, bien, il devrait avoir un moyen d'aller contrôler ces boîtes à lunch-là, puis dire, on en veut pas dans nos boîtes. On enlève ça. On met pas ça là-dedans. Et là, ben, on en est rendu là. C'est pour ça qu'il y a des gens, il y a des tribunaux qui vont être saisis de certaines affaires, puis ils vont devoir, on va devoir s'adapter. Vous savez, l'homme, ou en fait l'humain, l'homme et la femme, on s'est toujours adapté. Des fois, c'est long, parce qu'en droit, vous le savez, changer des lois, ça prend du temps. On change des mentalités, ça prend du temps. On le dit, on le dit à l'émission.
Mais surtout quand ça touche la technologie. Prends la loi sur la propriété intellectuelle, ça avait été changé il y a plusieurs années, mais la journée qu'ils l'ont modifié, tout changeait. Là, je pense que le streaming venait d'arriver. Le streaming qui était de ne pas télécharger la vidéo, mais la regarder sur le site. Donc, tu sais, ça évolue. Puis honnêtement, on en parle et reparle de ça, mais je ne sais même pas c'est quoi la solution, parce que il y a trop de volume. Les policiers, c'est sûr qu'ils vont regarder ce qui pourrait sembler sérieux. Ouais. Et c'est là qu'ils vont agir. Donner l'exemple, je pense, c'est une des solutions aussi. Quand certains, on l'a vu dans ce cas-là, certains ont été rencontrés par la police. Dossier remis au DPCP. Est-ce qu'il y aura des accusations?
Possiblement. Puis on espère pas que les gens vont se faire poivrer, mais on espère que ça donne des exemples. C'est ça qui est important.
C'est sûr que quelqu'un, plus il y a d'exemples, on se cachera pas, c'est de même ça marche. S'il y a des exemples, les gens en arrière de leur clavier commencent à se dire, ben, je suis pas intouchable. Je fais pas seulement écrire sur un ordinateur, il y a beaucoup de gens touchés puis ça a des conséquences. C'est la mentalité. Mais là, enlevons tous ceux, parce qu'il y en a beaucoup qui, comme vous l'avez dit, qui ont des problèmes de santé mentale, qui écrivent comme ça.
Oui, mais c'est pas très difficile à gérer. Il y a beaucoup qui, c'est parce qu'ils sont comme ça, puis c'est je me fous des autres.
Non, c'est sûr. Il y en a qui se pensent intouchables.
Exactement. En arrière d'un clavier.
Mais d'ailleurs, moi, j'en ai eu. Puis de toute manière, au Québec, si t'as pas d'insulte, ben t'es pas connu.
Non, exactement, c'est ça. Des fois, c'est pas bête, mais c'est pas bête.
Mais c'est quand ça fait peur que là, la ligne peut être dépassée. Pensez pas que c'est rien de penser que quelqu'un avait en notre vie. Ça a beaucoup.
Soyez donc compréhensifs et indulgents, puis arrêtez donc de crier des noms à tout le monde.
Oui, à suivre. Merci, Matt Boily.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
C'est maintenant l'heure des questions du public, les questions que vous nous avez posées sur la ligne 187 Cube Radio, sur le Facebook. Je suis toujours avec Matt Boily.
Toujours au poste.
On est prêt. Bon, on répond à la première question qui est Joël M. de Chambly qui nous demande sur notre page Facebook s'il est vrai que des parents ont obtenu une ordonnance de la cour pour pouvoir garder leur enfant à la maison et ne pas les envoyer à l'école à cause de la COVID-19.
Oui, il y a peut-être des parents qui ont réussi à faire le coup, là, mais ce que j'ai vu cette semaine, c'est l'inverse. Il y a une dame, là, qui est une Madame Gibson, qui a demandé, bon, parce qu'elle n'était pas capable d'avoir d'exemption médicale, ou enfin, il semblait que c'était pas assez grave. Il y avait pas de médecin qui était capable de dire que ses enfants devaient rester à l'école. Elle a juste demandé, je veux faire l'école chez moi parce que j'estime que c'est mieux pour mes enfants. Vous savez, vous pouvez faire, on l'a déjà dit à l'émission, vous pouvez faire l'école à la maison pour vos enfants. Il y a des cas, par exemple, des gens qui vont à l'étranger, il y a des gens qui vont sur des voiliers, hein, ils vont passer un an, deux ans, et puis ils démontrent au ministère de l'Éducation qu'ils sont quand même capables, parce que vous savez que de 6 ans à 16 ans, l'école est obligatoire au Québec, donc vous devez absolument envoyer vos enfants à l'école ou démontrer que vous êtes capable de leur donner une éducation suffisante. Or, cette dame-là, ce qu'elle a fait, et je vais en venir au jugement de la Cour supérieure, là, et je vais le vendre le punch tout de suite, le juge de la Cour supérieure lui a pas donné raison, en lui disant, écoutez, madame, vous avez pas de motif suffisant pour démontrer que votre enfant n'est pas en sécurité à l'école. Parce que elle ne disait pas « Je veux faire l'école à mes enfants chez moi et je veux... je suis capable d'avoir une exemption pour l'envoyer à l'école parce que je suis capable d'y donner des cours moi-même et donner ce que le ministère reconnaît comme de l'éducation à la maison. Ça aussi, ça peut se faire. Alors, c'est pas ce qu'elle disait. Elle disait « Non, moi, je veux pas envoyer mon enfant à l'école parce que j'ai peur pour sa santé. » Or, le juge de la Cour supérieure a dit, écoutez, les avantages d'un retour à l'école en personne, ça l'emporte, ce que le juge dit, largement sur les risques pour la santé. Alors, on a vu là que, bon, les risques pour les enfants sont faibles. Bon, il y a des risques de transmission. On a fait des bulles dans les classes. On a essayé de rendre ça de façon beaucoup plus sécuritaire, même s'il n'y a pas de c'est pas parfait. On sait que le système n'est pas parfait. Mais ce que le juge a tranché, finalement, on peut pas être en désaccord avec ça. On dit, écoutez, la situation s'évalue de jour en jour. Dans toutes les écoles, les gens, on l'a vu, il y a des classes qui ont été fermées parce qu'il y a eu des risques dans certains endroits, des jeunes qui ont attrapé la maladie, donc on prend pas de chance, on les met en isolement 10 ou 14 jours, et puis on revient après. Alors, on ferme pas toutes les écoles, on ferme juste les classes, c'est ça qu'on a. Alors, le juge a décidé que, dans ce cas-là, la dame avait pas raison.
C'était pas des motifs assez sérieux.
C'est pas,
mais si, exemple, on parle d'une famille bigénération, il y a sa grand-mère qui est gravement malade.
Il pourrait avoir des motifs, effectivement.
Là, ça pourrait être un motif sérieux.
Tout à fait. Alors,
si l'enfant avait des problèmes sérieux de santé, que ça pouvait
mettre... Mais dans ce cas-là, la dame, ce qu'elle alléguait, c'est pas qu'il y avait un problème, c'est qu'elle voulait pas qu'il y aille, c'est tout. Le juge a dit non.
Par peur de la COVID, par
exact,
peur...
Exact, c'est ça. Donc, on a pris des processus qui sont suffisamment clairs pour dire votre enfant n'est pas en danger, alors envoyez-le à l'école.
Toujours la logique. Ensuite, deuxième question, Paul-André C. de Varennes veut savoir s'il est vrai que le fédéral va pouvoir payer des jours de congé de maladie s'il s'absente pour la COVID.
Ben, en fait, ce qu'on a vu encore une fois cette semaine, c'est le gouvernement fédéral qui a annoncé ça, le M. Trudeau. Il dit que dès la rentrée parlementaire, il verrait à faire transférer aux provinces des montants, puis ça sera le ministère du Travail, là, qui est le ministre Jean Boulet ici, là, qui va mettre un système en place. Puis que ça serait une question de temps là, pour financer effectivement des gens qui pourraient avoir des congés de maladie. On parle d'une dizaine de jours, encore là. Vous savez, lorsque vous êtes mis en isolement, on dit 14 jours. Ben 14 jours, c'est deux semaines, même qu'on parlait 10 jours dernièrement. Alors, s'il y a 10 jours de congé COVID, entre guillemets, ben c'est deux semaines de travail. Donc, vous pourriez être...
Oui, mais Maître Boily, là-dessus, je veux dire, ça... Je ne souhaite pas de mal à personne, mais quelqu'un qui a un diagnostic positif de COVID, c'est sûr qu'il peut manquer du travail.
Ça, c'est clair. Mais est-ce qu'il
mais
va
ceux
être
qui sont en... Ouais.
C'est là que le fédéral est rentré en. Puis là, on dit qu'on peut accorder cette prestation canadienne de maladie. Hein. C'est pas une compensation parce que vous devez être chez vous, mais c'est à cause que vous avez eu la COVID. Ben, vous auriez droit à 500 $ par semaine pour une période de 10 jours pour compenser le fait que vous devez être en isolement puis que vous avez attrapé la COVID.
Comme je disais, quelqu'un qui sait qu'il y a un diagnostic, mais quelqu'un qui est en isolement préventif, ça complexifie les choses.
Ah, tout à fait.
Mais en ce moment, on travaille, quelqu'un aurait, mettons, se casse une jambe. Bon, il manque du travail. Il doit être assuré pour.
Ben, c'est-à-dire, puis n'oubliez pas qu'un accident de travail, c'est différent. Ouais. Mais est-ce que la COVID, la question qui tue, est-ce que la COVID pourrait être un accident de travail? Ben, ça pourrait être le cas. L'employé démontre qu'il a pris son virus à l'emploi, ça pourrait très bien être considéré comme un accident de travail.
Oui, puis je pense, c'est qui regarde l'application des règles dans les commerces? La CNESST.
Qui effectivement est la seule qui applique les directives en matière de décret au niveau de la santé publique. Donc, ça pourrait être effectivement eux qui pourraient décider que...
Comment prouver ça, Mme Boilly?
Ça, écoutez, ça reste toujours une question de preuve, mais s'il y a une éclosion par exemple, dans une industrie quelconque, puis que vous avez 40 travailleurs, on dit en anglais « chances are », il y a beaucoup de chances que vous l'ayez pris là, vous aussi, ça pourrait être considéré comme un accident de travail. À ce moment-là, ce serait les prestations au niveau de la santé et sécurité au travail qui sont beaucoup plus avantageuses que 500, dans certains cas, que 500 $ par semaine. Mais c'est à suivre.
Mm-hmm. Il y a Marie-Michel de Pont-Rouge qui nous demande sur la ligne 187 Cube Radio si elle est réellement obligée de faire du temps supplémentaire si son employeur lui demande. Ça dépend. C'est dans le système de santé. Non, parce que dans le système de santé, il y a le temps obligatoire.
Il y a du temps obligatoire, effectivement, puis il y a du temps que tu n'as pas le choix de faire. Mais dans une entreprise normale, les heures supplémentaires ne sont pas obligatoires, à moins qu'il y ait une situation d'urgence et qu'à ce moment-là, on doit vous aviser. On ne peut pas vous obliger à faire du temps supplémentaire comme tel. C'est seulement 2 heures par jour, à moins que ça soit un cas de force majeure. Alors, si c'est plus de 2 heures par jour puis il n'y a pas de force majeure, vous n'êtes pas obligé. Évidemment, l'employeur peut vous regarder de travers, mais quand vous êtes syndiqué puis vous avez un bon syndicat en arrière, d'habitude, il n'y a pas de problème. Dans une plus petite entreprise, c'est plus délicat. Dire à ton patron, excusez, il y a des clients, moi, je m'en vais parce que j'ai un super soir ou j'ai un party, c'est pas tout à fait bien vu. Mais vous ne pouvez pas être obligé. Bon, on a vu cette semaine, il y aurait des gens qui, en fait, ce qu'on a dit et ce que j'ai vu sur le web, c'est qu'il y a des gens chez Amazon, parce qu'on a ouvert des bureaux à la Chine, semble-t-il, et puis on dit dans l'offre d'emploi, on dit, écoutez, vous allez faire des heures supplémentaires, mais en disant, on vous paye, mettons, 16 ou 17 $ l'heure, mais vous allez faire des heures supplémentaires, donc vous allez en faire plus. Or, il y a des gens qui disent, moi, je veux faire mon 35 ou mon 40 heures, je ne tente pas d'en faire plus d'heures supplémentaires. Mais si l'employeur dit, là, tu vas en faire... vous avez le choix. Si vous en faites, puis vous êtes bien vu par l'employeur, vous en faites pas, vous êtes mal vu, puis si vous êtes le dernier rentré, vous allez avoir les bons et beaux chiffres. Il y a toujours une question de négociation. Mais dites-vous une chose, plus de 2 heures par jour, vous n'êtes pas obligé, et puis il faut qu'il y ait une situation d'urgence également. Alors, la réponse, c'est que dans le milieu de la santé, oubliez ça, ce que je viens de vous dire, parce que dans le milieu de la santé, ils sont obligés de rester sur place si personne ne rentre, mais dans les autres milieux... C'est pas obligatoire, à moins d'urgence. Puis dans des situations aussi, on parle de policiers, pompiers, ambulanciers, des choses comme ça, qui sont relatives à la santé et la sécurité publique. Mais à part ça, il n'y a pas d'obligation, à part 2 heures par jour dans des situations d'urgence.
Mm-hmm. Le travail qu'on appelle policier, pompier, infirmière, c'est quoi le mot, donc?
Les services essentiels. Exactement.
OK. Prochaine question. Il y a Jean-Christophe P. de Repentigny qui veut savoir s'il doit payer une pension alimentaire à son enfant qui est au 2e cycle à l'université, puisque celui-ci ne travaille pas. Oh, là, on pousse ça loin parce que on sait que des études universitaires, oui, ça peut continuer. Mais ouais, là, on est rendu au deuxième cycle.
Deuxième cycle, c'est comme la maîtrise ou le doctorat. Ouais.
Mais rappelons avant, Maître Boily, on a un peu de temps.
Ouais, pension alimentaire.
Pension alimentaire, ça finit pas à 18 ans. L'enfant peut être... L'enfant, je dis, le jeune peut être à l'université, puis
Écoutez, on dit qu'une pension alimentaire, c'est payable tant que l'enfant n'est pas autonome. Hein? Ça, c'est le principe. Alors, c'est pas le 18 ans ou le 21 ans avant. Là. Un enfant, par exemple, qui a 18, 19 ans, qui travaille à temps plein, vous n'avez pas de pension alimentaire à payer. Il faut que l'enfant, il faut qu'il soit en mesure d'assurer sa propre subsistance. C'est pas parce qu'il a 20 ans qu'il est nécessairement en mesure de... Mais on dit généralement, après qu'un bac ait été complété, généralement, un enfant a ce qu'il faut pour aller dans la vie. S'il a fait, par exemple, un cégep professionnel qu'on appelle un 3 ans ou un diplôme quelconque, il y a une occupation qu'il peut tenir à temps plein, puis qu'il ne le fait pas parce qu'il veut retourner aux études, veut faire des choses, vous n'avez pas une obligation légale de payer. Parce que l'enfant doit d'abord démontrer, si jamais il vous poursuit, parce qu'il faut qu'il vous poursuive, s'il ne voulait pas payer de pension, mais ça se fait généralement, les enfants parlent à leurs parents, puis ça se règle bien. Mais s'il y a des parents qui veulent pas payer pour des enfants, ou s'il y a des enfants qui sont un petit peu, je dirais, pas lâches, là, mais qui veulent pas travailler, qui veulent pas avoir des... Puis qui pourraient travailler, parce qu'il y a des enfants qui vont à l'école, qui peuvent pas, parce qu'ils ont pas de temps. Ils sont pris par leurs études, puis ils sont là-dedans vraiment à temps plein.
Là, c'est un débat. Hein.
C'est un débat.
Il y en a une gang qui paye leurs études.
Oui, effectivement. Mais il y a une question de moyens aussi. Est-ce que les gens ont les moyens de payer? Il y a une question de moyens puis de besoins, mais il faut que l'enfant démontre qu'il ne peut pas travailler. Puis ça, tu sais, il ne peut pas travailler l'été, il ne peut pas travailler le soir, il ne peut pas travailler fin de semaine.
Et c'est quoi la
réponse?
C'est
pas évident. Mais alors, c'est la réponse, deuxième cycle, en général, non. Ouais. À moins que l'enfant démontre qu'il peut pas travailler, il n'est pas en mesure de travailler ni l'été, ni le soir, ni les fins de semaine. Bonne chance pour qu'il soit un juge.
Mais
ça arrive.
Il y a des cas qu'avec son bac, il pourrait travailler.
Exactement.
Mais je pense qu'il y a des domaines où est-ce que si tu n'as pas de maîtrise, tu n'as pas de job, là, mais...
Il y a des cas.
En tout cas, il faut qu'il se lève plus de bonheur. C'est déjà tout pour nous cette semaine. Merci à tout le monde. Merci à l'équipe. Et posez vos questions sur la ligne 187 Cube Radio, sur le Facebook. On se retrouve la semaine prochaine, même heure. Bye-bye.
Cube Radio.